de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie établit une coopération mondiale pour accélérer la production de vaccins ». Les apprenants de l'indonésien au Japon ont augmenté de plus de 10%. BMKG met en garde contre le risque d'incendie de forêt et de terre dans un certain nombre de régions d'Indonésie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports lance le nouveau logo LPDUK. Le festival de films de Turquie annulé après le tollé suscité par la censure. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'Indonésie, par Biopharma, a signé une collaboration avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, ou abrégé en CEPI, pour accélérer la production de vaccins pour faire face à la pandémie. Le ministère de la Santé salue les réalisations obtenues par le CEPI et Biopharma, notamment pour accroître la contribution de l'Indonésie à la sécurité d'approvisionnement et à l'indépendance vaccinale. Dans une déclaration écrite à Jakarta samedi, le directeur général des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux du ministère indonésien de la Santé, Rizka Andalusia, a déclaré que cette collaboration apporterait la dernière technologie de production de vaccins, à savoir le vecteur viral et mRNA, à l'Indonésie et à la région de l'ASEAN, ainsi que soutenir la disponibilité des produits et augmenter la capacité de production de vaccins. En dehors de cela, il déclarait que l'Indonésie disposerait également d'installations de laboratoires de bioprocédés qui seront utilisés pour développer et tester la technologie des vaccins à mRNA et à vecteurs viraux. L'Association japonaise des professeurs et militants de langue indonésienne a déclaré que le nombre d'apprenants de langue indonésienne augmente d'environ 10 à 15% cette année. Le président de l'Association japonaise des professeurs et militants de langue indonésienne, Japon Suyoto, lors du séminaire annuel 2023 intitulé « Stratégie de soutien au développement des programmes d'internationalisation de langue indonésienne » à Tokyo samedi, a déclaré qu'il y a actuellement au moins 4 200 étudiants étrangers qui étudient l'indonésien au Japon. Ce nombre est réparti dans 75 universités ou établissements d'enseignement supérieur au Japon qui proposent des cours de langue indonésienne. Suyoto a déclaré que l'intérêt croissant pour l'apprentissage de l'indonésien était influencé par l'ouverture de l'information, l'intérêt pour la culture indonésienne, les nombreux événements liés à l'Indonésie impliquant les résidents locaux. En dehors de cela, la tendance à la hausse de l'intérêt est également motivée par l'analyse des économistes japonais qui prédisent que l'Indonésie deviendra le pays avec la quatrième économie mondiale en 2050. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique a mis en garde contre le risque d'incendie de forêt et de terre dans un certain nombre de régions d'Indonésie au milieu des températures chaudes qui frappent le pays. L'avertissement a été transmis par BMKG via la page bmkg.go.id surveillée à Jakarta dimanche dernier. Selon l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, ou BMKG, que plusieurs zones présentant un potentiel d'incendie de forêt et de terre comprennent Jambi, certaines parties du Java oriental, Kalimantan du Sud, Kalimantan central et certaines parties de Lampung. En dehors de cela, Nusa Tenggara Est et certaines parties de Sumatra du Sud. BMKG appelle également le public à réduire les activités en dehors du domicile et à utiliser des masques en dehors du domicile, en particulier pour les personnes ayant des antécédents de problèmes respiratoires, les enfants, les femmes enceintes et les parents âgés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a lancé le nouveau logo de l'institution des gestionnaires de fonds et d'affaires de sport, ou en indonésien, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, ou abrégé LPDUK, à Jakarta samedi. Le lancement de ce nouveau logo faisait partie du rebranding et de la transformation des marches pour le service de l'Agence générale relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a révélé qu'il existerait de nombreuses plateformes numériques opérant dans le secteur du divertissement sportif avec lesquelles LPDUK pourrait collaborer. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a expliqué que LPDUK ne sera pas seulement destiné au divertissement sportif, mais sera également destiné aux événements sportifs internationaux, y compris le sport automobile. En outre, le LPDUK devrait également pouvoir accroître les collaborations qui soutiennent les industries du sport. La municipalité de la Turquie du Sud a annulé vendredi un festival de cinéma vieux de 60 ans à la suite d'une controverse autour d'un documentaire politique. C'était samedi à Antara, Jakarta, le maire d'Antalya, Muhyiddin Bosek, dans un téléchargement sur X, a annoncé l'annulation du festival du film Golden Orange d'Antalya, prévu du 7 au 14 octobre. Le ministère turc de la Culture et du Tourisme a également retiré son soutien au festival le même jour, accusant les organisateurs d'autoriser la propagande terroriste.
We'll be right back.
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie interdit officiellement la vente des réseaux sociaux TikTok ». Le règlement du ministre du Commerce numéro 31 de 2023 concernant les licences commerciales, la publicité, l'orientation et la surveillance des acteurs commerciaux dans le commerce via des systèmes électroniques décide qu'il interdit aux médias sociaux officiels de TikTok Shop de vendre et d'effectuer des transactions en Indonésie. Le ministre du Commerce Zulkifli Hasan, cité jeudi par l'un des médias, a déclaré que le commerce social devrait uniquement faciliter la promotion des biens ou des services et non les transactions directes. Si une application de réseau social souhaite vendre, elle doit créer une application de commerce électronique distincte conformément à la réglementation en vigueur. Le gouvernement laisse encore jusqu'à la semaine prochaine une marge de manœuvre pour que tout le commerce social se conforme aux règles. Le gouvernement fixe également un prix minimum de 100 dollars américains par unité pour les marchandises en provenance de l'étranger qui sont vendues directement par les commerçants en Indonésie via des plateformes de commerce électronique transfrontalières. Les commerçants nationaux qui vendent des produits importés ne sont pas soumis à ces restrictions. Parallèlement, le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Teten Mas Duki, a déclaré que 21 millions de micro, petites et moyennes entreprises locales étaient entrées sur le marché, mais n'étaient toujours pas en mesure de rivaliser avec les produits importés. Selon lui, il existe le règlement du ministre du Commerce pour protéger les micro, petites et moyennes entreprises du pays avant que les produits nationaux soient compétitifs. Pour cette raison, le gouvernement doit garantir des conditions de concurrence égales et un commerce équitable hors ligne ou bien en ligne. Le ministre Teten Mas Duki a déclaré que de nombreux produits locaux de micro, petites et moyennes entreprises étaient malmenés et fermés en raison d'une concurrence inégale sur les prix des produits. Parce que les produits de micro, petites et moyennes entreprises ont été touchés par des prix d'éviction, c'est-à-dire divers produits importés vendus à des prix déraisonnables. Voilà la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er octobre. On commence par le 1er octobre, la fête nationale de la République populaire de Chine. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été officiellement fondée. Des célébrations et des cérémonies de victoire ont eu lieu sur la place Tiananmen. Mao Zedong a hissé le drapeau national communiste chinois au milieu de 300 000 soldats rassemblés sur la plage. La cérémonie organisée à cette époque sur la place Tiananmen était une grande cérémonie pour la fondation du gouvernement central de la République populaire de Chine. Citant JavaPost.com, le 21 septembre 1949, Mao Zedong, directeur du comité préparatoire de la conférence consultative politique du peuple chinois, a annoncé la naissance de la Chine nouvelle dans son discours d'ouverture de la première session de la conférence consultative politique du peuple chinois. Le 2 octobre 1949, le gouvernement populaire central de Chine a publié une résolution sur la Journée nationale de la République populaire de Chine et a désigné le 1er octobre comme Journée nationale de la République populaire de Chine. Le 1er octobre est un jour important pour le peuple indonésien, célébré comme la Journée de la sainteté de Pancasila. La journée de la sainteté de Pancasila commémore le meurtre de 6 généraux et d'un officier de l'armée lors du mouvement du 30 septembre 1965 à Jakarta. Initialement, la journée de la sainteté de la Pancasila n'était commémorée que par l'armée indonésienne. Ceci est réglementé dans le décret du ministre commandant de l'armée du 17 septembre 1966 qui stipule que le 1er octobre est la journée de la sainteté de Pancasila qui doit être commémorée par la TNIAD. Citant Compass.com, mais quelques jours plus tard, le ministre en chef de la Défense et de la Sécurité de l'époque, Suharto, a publié un décret daté du 29 septembre 1966. ordonnant que la journée de sainteté de Pancasila soit non seulement célébrée au sein de l'armée indonésienne, mais également célébrée par toutes les troupes du TNIAD, y compris les autres forces et la communauté. La première commémoration de la journée de la sainteté de Pancasila a eu lieu le 1er octobre 1966 à Lubang Buaya, Jakarta. Le 1er octobre 2005, l'attentat à la bombe à Bali en 2005. Les attentats à la bombe de Bali de 2005, a également connu sous le nom de Bali Bombings 2, sont une série d'attentats à la bombe survenus à Bali le 1er octobre 2005. Trois attentats à la bombe, un à Kuta et deux à Jimbaran, ont fait au moins 23 morts et 196 autres blessés. En novembre 2005, la police a réussi à identifier les trois kamikazes, à savoir Muhammad Salik Firdaus, Vishnu et Ayub Hidayat. Cet attentat suicide a eu un impact significatif sur le tourisme à Bali, si l'on considère que le 12 octobre 2002, un attentat similaire avait tué 202 personnes. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Cepat atau
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Mandalika accueillera à nouveau le MotoGP en 2024 ». Le circuit international de Mandalika a de nouveau été choisi pour être l'un des hôtes de la compétition internationale de course de MotoGP 2024. Selon l'ordre du jour, cité dans le calendrier officiel du MotoGP vendredi, le circuit situé à Lombok Central, à Nusa Tenggara de l'Ouest, devrait ramener des pilotes de moto populaires tels que Francesco Bagnaia à Fabio Quartararo du 27 au 29 septembre 2024. Ce sera la troisième fois que le circuit de Mandalika a accueilli les cœurs en compétition internationale pour le titre de champion après le premier MotoGP qui avait lieu en 2022. En 2022, à Mandalika, le pilote Miguel Oliveira est sorti champion, tandis que cette année, le Mandalika MotoGP 2023 aura lieu du 13 au 15 octobre. La saison MotoGP 2024 commence au début mars sur le circuit international de Lusail au Qatar. Le Qatar sera le premier site de l'événement de course automobile qui vise à battre le record de 22 Grands Prix. En dehors de cela, il y a quelque chose d'intéressant dans la course MotoGP 2024 car elle marquera le début du voyage de MotoGP pour une transition vers une utilisation de carburant 100% durable. Le carburant doit être d'au moins 40% d'origine non fossile avant de passer à 100% en 2027. Parallèlement, le calendrier 2024 reste également régional, avec des grands prix regroupés géographiquement et le long d'itinéraires qui permettent une efficacité accrue à mesure que le frais et le personnel se déplacent dans différentes parties du monde. De plus, en un an, les batailles de coureurs seront divisées en deux sessions. Premièrement, 11 courses ont eu lieu avant les vacances d'été et 11 courses après les vacances. Après le Qatar, le 10e Grand Prix du premier semestre 2024 se poursuivra en Algarve, Portugal, en Argentine, aux États-Unis, à Jerez, Espagne, en France, en Catalogne, Espagne, au Mugello, Italie, au Kazakhstan, aux Pays-Bas et en Allemagne. Un autre élément intéressant du calendrier MotoGP 2024 est la présence du circuit international de Sokol qui fait du Kazakhstan le 31e pays au monde à accueillir la compétition. Ensuite, la deuxième manche débutera à Silverstone en Angleterre avant de se poursuivre en Autriche, Aragon Espagne, Saint Marin Italie, Inde, Mandalika Indonésie, Japon, Phillip Island Australie, Thaïlande, Sepang Malaisie et se termine à Valenciana, Espagne. C'est tout mon Indonésie.
Come on.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la cascade de Dangku est située non loin du village de Pantai, district de Kuantan Mudik, région de Kuansing, province de Riau. Avant d'aller à cet endroit, en route, les visiteurs regarderont une vue sur les plantations de palmiers à huile et la rivière du village de Pantai Lubuk Ramo. L'entrée de la cascade est marquée par une excavation menant au chemin d'accès à la cascade. Après avoir garé le véhicule à l'entrée de la cascade, pour arriver à cet endroit, les visiteurs doivent être prudents et il est conseillé d'inviter les révérends pour ne pas se perdre. Même si l'emplacement de la cascade de Dangku est assez éloigné des zones résidentielles, à environ 800 mètres, les visiteurs sont toujours enthousiastes à la visiter. Chers auditeurs, pour profiter de cette cascade qui n'est pas trop haute, les visiteurs peuvent grimper et sauter du haut de la cascade, puis nager jusqu'au bord et remonter la falaise pour sauter. Cette cascade d'un étage est si enchanteresse avec la clarté de l'eau que les visiteurs peuvent avoir l'impression de se refléter dans l'eau claire. De nombreux visiteurs profitent de ce moment pour prendre des selfies à l'emplacement de la cascade de Dangku. L'eau de la piscine est verdâtre à cause du reflet de la lumière des plantes autour de la cascade. Le fond rocheux de la piscine avec cascade peut aider le visiteur à marcher vers le centre de la piscine. Bon, chers auditeurs, les falaises rocheuses ajoutent à l'exotisme de cette destination touristique cachée, la cascade de Dangku. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « Le tempé d'Indonésie entre sur le marché américain ». Le tempé est un aliment typiquement indonésien apprécié par de nombreux étrangers. Le tempé peut être transformé en divers plats ou simplement frit. Azaki Food International, l'une des entreprises qui produit tempeh Azaki, a réussi à pénétrer les marchés des États-Unis, d'Asie et du Moyen-Orient grâce à la mise en œuvre du concept de durabilité. Tempeh Azaki a désormais le droit d'utiliser le label écologique de USA. Auparavant, Azaki Food International a inauguré mardi une usine de tempeh avec un concept durable. L'inauguration a été réalisée par l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Hee Kim, et le directeur général des petites, moyennes et diverses industries du ministère indonésien de l'industrie, Reni Yenita. L'inauguration de cette usine est spéciale car les divers efforts et engagements que Azaki a pris pour pénétrer le marché mondial ont finalement été appréciés. Avant le processus d'inauguration, Cucu Pruhiat, PDG d'Azaki Food International, a reçu un certificat de US Sustainable de la part du Country Director USEC Indonesia, Ibnu Wiono. L'usine Azaki répond aux normes de durabilité avec une conception spéciale qui répond aux normes de sécurité alimentaire très élevées sur les marchés étrangers. Cette usine de 2000 m² est capable de produire jusqu'à 4,5 tonnes de tempeh par jour. Cucu Pruhiat a admis que Tempeh Azaki avait réussi à pénétrer le marché mondial en exportant régulièrement 35 tonnes de tempeh par mois vers le Japon et 15 tonnes vers la Corée du Sud. En outre, depuis le début de cette année, des exportations de tempeh ont également été réalisées vers Taïwan et les États-Unis, tandis que la Chine et plusieurs pays du Moyen-Orient sont encore en processus d'exploration. Différents pays sont de plus en plus stricts en matière d'octroi de permis d'entrée aux produits alimentaires. Un certain nombre d'exigences en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage doivent être respectées par les producteurs. C'est un exploit pour Azaki de pénétrer ce marché. Voilà l'Indonésie en couleur.
Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.
Dan sesali
maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cintai
padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson de groupe Ungu. Ungu est un groupe de Jakarta formé le 8 juillet 1996. Ce groupe est composé de Pasha, Enda, Onchi, Maki et Roman. Le 22 septembre 2023, Ungu sort la chanson Seperti Mati Lampu. Cette chanson créée par Pasha a déjà été popularisée par le chanteur de dangdut Nasar en 2013. Cette chanson raconte de la profondeur de l'amour de quelqu'un pour son amant. Dans cette chanson, il est décrit que la vie sera très belle lorsque vous serez avec la personne que vous aimez. Seperti Mati Lampu est l'une des listes des chansons de la session studio d'Ungu intitulée Waktu Yang Dinanti. Là où se trouve la vidéo, elle est diffusée sur la chaîne YouTube Ungu depuis le 7 septembre 2023. La chanson Seperti Mati Lampu a également été incluse dans le top 16 de la liste des tendances de YouTube Music Indonesia. Bon, chers auditeurs, voici Seperti Mati Lampu chantée par Ungu. Bonne écoute!
Kau tanyakan besarnya cintaku. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku. Yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya. Sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit dan setinggi kasih yang ku punya. Dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut dan seluruh cinta yang ku punya. Dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tinggi langit dan setinggi kasih yang ku punya. Dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati
tertiwati lampu cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu seperti mati lampu ya sayang. Tertiwati lampu cintaku tanpamu ya sayang.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kamu tak perlu resah.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.